Monsieur Mathéo D'Amico est aussi professeur. Il enseigne l'histoire et la philosophie dans un lycée d'Ancône. Il est docteur en philosophie de l'Université de Milan. Historien, il a écrit une étude sur l'Inquisition, publiée en 1998, a collaboré à un livre d'histoire pour les écoles supérieures. Très préoccupé par la question religieuse, il a étudié l'influence de la pensée moderne sur la théologie moderniste et la crise contemporaine de la théologie du mariage. Nous le connaissons par l'enregistrement de conférences qu'il a données en Italie, en particulier en février 2003. Monsieur D'Amico, merci d'avoir spontanément accepté notre invitation. Merci d'être venu d'Ancône pour nous parler.
Je vous remercie pour l'invitation à parler à propos de l'Union européenne. Je suis très heureux de cette occasion parce que je pense que l'Union européenne soit un des thèmes les plus importants dans la politique contemporaine qu'il faut comprendre. Je m'excuse parce que je connais très mal le français. J'ai attrapé un peu la grippe. Et pourtant, je m'excuse aussi pour la faiblesse de ma voix. La première chose qu'il faut dire, c'est que l'argument de cette soirée n'est pas seulement très important. Peut-être que soit le plus important dans la politique de la Suisse d'aujourd'hui. Parce que entrer ou ne pas entrer dans l'Union européenne, c'est un choix décisif. En toutes les matières possibles, économie, finance, politique, société, culture aussi. Si on entre dans l'Union européenne, tous les aspects de la vie quotidienne seront changés radicalement. Mais la première question qu'il faut souligner, c'est la suivante. Est-il possible de critiquer l'Union européenne? Il paraît que non, parce que je ne sais pas en Suisse, je vous donne cette soirée un témoignage de l'expérience en Italie, qui est entrée depuis longtemps dans l'Union européenne, mais il est très difficile, il est presque impossible de critiquer l'Union européenne et l'idée même d'entrer ou ne pas entrer dans l'Union européenne. Tout ça devrait éveiller notre soupçon. Parce qu'il n'est pas normal qu'on puisse discuter rationnellement de ce problème. Il y a une vraie conspiration de silence dans les journaux, dans les revues, dans les médias en général. On parle d'Union européenne. Et je pense qu'aussi en Suisse, on parle tous les jours d'Union européenne. Mais on ne parle jamais, ou presque jamais, des vrais problèmes de l'Union européenne. C'est très différent, la situation. En Italie, tous les jours, il y a beaucoup d'articles à propos de l'Union européenne, mais presque jamais des articles qui nous disent quelque chose de très significatif et de très important à propos des dangers et des problèmes que l'Union européenne présente. Il y a une complète absence de chaque vraie discussion, aussi dans les universités, dans le monde intellectuel et culturel italien, mais français, allemand, etc. On peut dire qu'il y a une interdiction à la discussion de ce problème. Bien au contraire, depuis les derniers 30 ou 40 ans, nous avons eu un marketing très agressif. Pour ainsi dire, une continue et capillaire action de convaincement de la bonté de l'Union européenne. En particulier dans les écoles primaires et secondaires italiennes, mais aussi françaises et allemandes, depuis 30 ans, il y a continué l'action de pénétration de cette idée. La positivité absolue de l'Union européenne. on a créé un état d'esprit, on a créé une idéologie, une mentalité tout à fait positive. Et quand on parle de ces problèmes, est vraiment difficile d'identifier, trouver quelques personnes qui acceptent de voir les problèmes. Il y a beaucoup de problèmes et je pense que cette fois ne sera pas difficile vous convaincre qu'il y a beaucoup de problèmes. L'homme commun européen, ne seulement italien, pense qu'il se trouve devant un processus fatal et irréversible. La conspiration de silence que j'ai dénoncée avant est particulièrement marquée à propos des aspects les plus critiques. La dernière observation préliminaire, et après je vais traiter un discours plus technique et plus juridique et constitutionnel, la dernière observation préliminaire, c'est la suivante. Il faut rappeler avec fermeté que si on a des dangers très grands pour tous les citoyens européens, on a des dangers particulièrement évidents, surtout pour les chrétiens et surtout pour les catholiques. Et je voudrais dire aussi, surtout pour les catholiques traditionnalistes, fidèles à la tradition. Après, je vais démontrer cette idée. Il faut dire aussi, si je pense que la plupart des vues ont déjà des connaissances très bonnes à ce propos, mais il faut dire quelques mots à propos de l'histoire, de l'idée même de l'Union européenne, avant de passer à l'analyse technique et juridique constitutionnelle du mécanisme de l'Union. Les racines idéologique et culturel de l'Union européenne. Avant tout, il faut rappeler que les grands protagonistes le projet originaire de l'Union européenne a été Jean Monnet. Jean Monnet était l'homme, un français, un citoyen français, mais l'homme de la haute finance américaine et anglaise, et à gérer les flux de financement américain à l'Europe après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Jean Monnet, avec les banques et les autres institutions financières américaines, a réalisé un projet très subtil, très intelligent, un projet victorieux. Aujourd'hui, on peut le dire. Malheureusement. Le projet est le suivant. Déconstruire les États nationaux européens, pas avec une initiative politique, mais avant tout avec une initiative économique. Il faudrait, pour Jean Monnet, édifier une série d'institutions économiques, la Tchéka, l'Euratom, etc., un numéro d'institutions économiques transnationales, en particulier transnationales parmi France et Allemagne, Hollande, etc. Dans la conception de Jean Monnet, les processus de destruction de l'État national auraient dû être tout à fait naturels. L'économie cheval de Troie pour pénétrer dans l'Europe des États nationaux et détruire l'idée même d'États nationaux. Il faut rappeler aussi le projet Wallonie, l'idée du président Roosevelt, avant de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, d'édifier un nouveau État, Wallonie, c'est-à-dire, avec le nord de la France, la Belgique, Luxembourg, Hollande et Alsace et Lorraine. Lorraine et Alsace. Seulement l'Angleterre et Wallonie auraient eu une autonomie politique. Tous les autres pays européens, Roosevelt confié à cardinal Spellman sous les pouvoirs communistes de l'Union soviétique, qui avait vaincu contre l'Allemagne, surtout grâce à la fourniture militaire des États-Unis. Donc, l'idée de transformer l'Europe, la patrie de la tradition culturelle chrestienne, en une réalité politique transnationale et communiste, totalitaire, est une idée ancienne. Mais l'idée d'Union européenne est aussi l'idée fondamentale de la tradition de pensée maçonnique et européenne. Parce que nous savons que aussi dans les moments originaires des naissances du pensée maçonnique, dans la tradition de Rosa Croix, et dans les pensées de Comenius, le grand penseur et pédagogue qui nous savons être un élément fondamental de la pensée maçonnique successive, il y a déjà l'idée d'unifier tous les pays, tous les États européens. C'est la plus ancienne des idées maçonniques, certainement. Une république universelle, un gouvernement mondial, aujourd'hui on dit mondialiste, ou on dit onusien, parce que jour après jour, toujours plus facile écouter cette expression, la nécessité d'un gouvernement mondial. Mais il faut aussi se rappeler très bien qu'aujourd'hui, il y a déjà un numéro très, très grand d'intellectuels qui commencent à parler des États-Unis d'Europe et d'Amérique, avec Israël et Turquie dans cette union. On parle déjà d'une unification atlantique avec une gouvernement unitaire pour les États-Unis et l'Europe. Donc, l'Union européenne, dans la pensée maçonnique, c'est seulement une étape. Après, il faut passer à un gouvernement atlantique et successivement mondialiste. Confirme cette interprétation l'effet que l'Union européenne, c'est un monstrum politique en train d'augmenter sa réalité, pardon, politique, avec l'ajout d'autres pays et d'autres pays et d'autres pays encore. On ne sait pas quand on aura la conclusion de ce processus d'ampliement. Très intéressant observer, en conclusion, que aussi dans la pensée des cercles magiciens et ésotéristes du XVIe et XVIIe siècle, il y a la même pensée. Unifier l'Europe. Nous savons que le diable est le singe de Dieu, imite Dieu. Avec les mêmes méthodes, la maçonnerie a le projet d'imiter la Respublica Universalis chrétienne. Parce qu'en Europe, il y a un seul exemple d'unification, l'unification chrétienne, spirituelle, médiévale. Mais la différence fondamentale parmi l'unification maçonnique politique et l'unification spirituelle chrétienne, c'est très simple à comprendre. L'unification chrétienne a été toujours une unification dans la diversité et dans le respect des différences nationaux, différences culturelles, différences spirituelles. L'unification totalitaire maçonnique, c'est une unification qui ne respecte aucune différence spirituelle ou culturelle. Il faut commencer, après ces préambules, je pense que vous êtes fatigués pour votre assemblée générale, et je m'excuse pour la lenteur et la longueur de mon exposition et mon langage un peu fait. Donc, il faut commencer l'analyse de la structure juridique et constitutionnel de l'Union européenne. J'ai étudié, comme je pense la plupart des vues, les documents constitutionnels qui, récemment, le 29 octobre, a été siglé à Rome. C'est un document incroyable de 300 pages avec 450 articles de constitution. C'est le plus grand et le plus long document constitutionnel de l'histoire. Tout ça a beaucoup de signifié que après nous chercherons de comprendre. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ces documents, dans cette constitution? Il y a beaucoup de choses, beaucoup de définitions, beaucoup d'articles, des principes, mais il n'y a aucune définition exacte, précise, de la nature de l'Union européenne. On ne dit pas qu'est-ce que c'est l'Union européenne, quelle typologie d'État elle veut réaliser. On ne dit pas, par exemple, que l'Union européenne est un État fédéral. On ne dit pas qu'il y a un État confédéral. On ne dit rien du tout. Cet phénomène signifie que l'Union européenne est un État bureaucratique, impersonnel, totalement opposé à une conception d'État confédéral ou fédéral. Mais les plus experts étudiants des rites constitutionnels ont dit que la complexité et les différences très grandes linguistiques, ethniques, culturelles, religieuses que nous avons parmi les différents États européens justifient seulement un État au confédéral ou fédéral. Si vous voulez, des modèles suisses. Parce qu'il est impossible d'unifier 25 États si différents sans une structure légère constitutionnelle et politique. Je pense des typologies confédérales. C'est l'unique forme politique que nous pouvons accepter. Mais tout au contraire, les politiciens européens ont l'idée de créer un État jacobin, un État, j'utilise un mot très fort, un État bolchevique, un État communiste, un État totalitaire. Il n'y a pas d'hésitation possible à cette propos. Les projets politiques, c'est les projets d'un État tout à fait totalitaire, d'un totalitarisme bureaucratique, non idéologique, qui cependant a une idéologie très précise, très, très claire à son fondement. Certainement, si nous lisons les 300 pages de la Constitution européenne, nous lisons presque dans chaque page les mots « liberté ». Les mots « liberté », les mots « égalité », les mots « fraternité ». Et ces trois mots, nous savons quand on commençait à définir la politique européenne. Mais cependant, la vraie nature constitutionnelle de l'Union européenne, c'est une dictature bureaucratique. Après, je vais démontrer cette idée. Il faut, en ce moment, commencer l'analyse la plus possible exacte et technique, j'espère, des institutions communautaires. Avant de faire cette analyse, nous pouvons rappeler parce que la tradition idéologique maçonnique qui nous savons être la vraie racine de le nazisme et la vraie racine du bolchevisme. Vous rappelez les études très intéressantes de l'économiste américain Anthony Sutton qui a démontré que l'argent pour organiser les partis national-socialistes et l'argent pour organiser la victoire du bolchevisme en Russie et un argent dans l'autre finance anglo-américaine, clairement maçonnique. Donc, n'est pas incompréhensible cet approchement entre les terribles expériences totalitaires que l'Europe a vécues dans les années 30 et 40 et l'actuelle, le présent Union européenne. Parce que j'étais en train de dire, la tradition maçonnique a les rêves, l'utopie de réaliser une unification complète de l'Europe. La raison de cette utopie négative, c'est la haine pour l'homme comme sujet spirituel. La haine pour un homme réellement libre et donc spirituellement orienté vers le Créateur et capable de se rappeler de Dieu et de la dimension surnaturelle. La politique, dans un État vraiment chrétien, comme dans les États médiévaux, c'est une politique tout à fait orientée vers la dimension spirituelle et surnaturelle. Et seulement quand l'homme organise la civitas hominis, la res publica des hommes, tout en réfléchissant avec les yeux vers Dieu, alors on a réel progrès. Quand on pense, comme dans la pensée maçonnique, seulement à la terre, on a inévitablement un exit totalitaire. Pour parler maintenant des institutions. C'est un thème très complexe. J'espère d'être capable de faire comprendre aussi en français, qui n'est pas ma langue, le sens de l'institution communautaire. Première observation. Dans le marketing très agressif et idéologique pour l'Union européenne, les manipulations, surtout de jeunes personnes, surtout des étudiants, il y a l'idée que l'Europe soit une institution démocratique. Et dans la tradition occidentale européenne, nous sommes habitués à penser qu'on a démocratie dans les cas où il y a un parlement, une institution parlementaire. Donc, dans la manipulation complète de l'opinion publique, il y a un soulignement incessant de la présence d'institutions parlementaires. Et chaque 4 ans, 5 ans, il y a les rituels, élections populaires de députés au Parlement européen. Mais toutes les personnes qui ont étudié les mécanismes communautaires savent que c'est la plus grande tromperie. Le Parlement européen a des pouvoirs tout à fait limités. Presque rien. Donc, il y a plus que 700 députés avec de l'argent national pour ces députés, très important. À seconde de l'État, il y a une nécessité d'argent pour presque plus ou moins 500 000 euros. C'est-à-dire un milliard par année de vieux lire italiens. Pour l'Italie, par année, c'est plus ou moins de 7 000 milliards de lire. C'est-à-dire, en euros, je pense encore en lire, 350 millions d'euros. Donc, le Parlement européen n'a aucune autorité. Après l'investiture officielle de la Commission, Barroso, par exemple, n'a aucun pouvoir d'initiative législative. Je demande, mais qu'est-ce que c'est? Un parlement avec 700 députés qui n'a pouvoir d'initiative législative. Qu'est-ce que c'est? C'est une absurdité, une contradiction en termes. Le parlement est exactement, dans la tradition politique européenne, les lieux où il y a les lieux suprêmes où il y a les pouvoirs législatifs. Dans les cas de l'Union européenne, il y a cette tromperie. Le Parlement ne peut pas proposer une loi. Après, nous allons voir qui a ces pouvoirs. C'est très intéressant. Mais nous sommes déjà devant une absurdité politique. 700 députés, beaucoup d'argent pour les maintenir, pour être précis. Chaque député a 5 000 euros pour son assistant. C'est seulement un exemple. Donc, après une législature, un député européen, quand arrive à l'âge de la retraite, a droit à une pension d'État très importante. Donc, les États qui entrent dans l'Union européenne. Il faut qu'ils se préparent à des dépenses très importantes. Mais la chose la plus importante, c'est que le Parlement ne peut proposer aucune loi. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Peut décider avec les conseils européens, institution de laquelle je parlerai plus avant, décider si les lois proposées par la Commission européenne sont positives ou non. Peut seulement approuver ou refuser les propositions de la Commission européenne. N'a pas initiative législative, mais pour seulement quelques arguments. L'agriculture, les transports transnationaux et des autres arguments similaires, seulement pour certaines matières, peut approuver les propositions de la Commission européenne. Avec quelle méthode le Parlement peut approuver une proposition législative de la Commission européenne? Avec une méthode très compliquée. Il y a une procédure incroyable, un byzantinisme pour arriver à la décision. Il n'y a pas une votation dans le Parlement transparent, immédiat, évident. Il y a une très compliquée discussion avec les conseils européens. Les conseils européens, c'est la deuxième institution européenne. Et c'est l'institution composée par les premiers ministres de tous les États de la communauté européenne. Berlusconi, Schröder, Tony Blair, etc. Tous les premiers ministres sont les responsables du Conseil européen. Mais aussi le Conseil européen ne peut pas proposer une loi. Il peut seulement décider des lois proposées par la Commission européenne. Le deuxième argument qu'il faut affronter. Après le Parlement, après le Conseil européen, il y a une troisième institution qui s'appelle Conseil des ministres. C'est une équipe constituée par tous les ministres des différents départements des différents États européens. J'ai fait un exemple. Il y a en Italie les ministres de l'agriculture, mais aussi en France, aussi en Hollande, en Allemagne, une fois par mois, tous les ministres de l'agriculture de l'Union européenne se trouvent à Bruxelles et ils approuvent ou non approuvent les lois proposées par la Commission. Donc, aussi le Conseil des ministres n'a pas le pouvoir de proposer des lois, a seulement le pouvoir d'approuver les lois qui a proposé la Commission. Nous avons le cadre suivant. Je m'excuse pour la confusion et pour la complexité. Mais c'est l'Union européenne qui est vraiment un monstre politique. Certainement, est important la faiblesse des mots français, mais aussi très compliqué. Est un monstre politique, l'Union européenne. Pour cette raison, est inévitablement complexe, difficile de les comprendre. Donc, Parlement sans pouvoir réel. Conseil européen, le premier ministre, sans pouvoir réel, mais avec le pouvoir très vague.
très abstraites, de donner direction à les opérations de toutes les institutions communautaires. Par ça, on peut comprendre ce que signifie plus exactement. Mais le texte de la Constitution dit la chose suivante. Donner direction à toutes les autres institutions. Troisième institution. Et après, nous avons la plus importante, la quatrième institution. Quatrième. Les conseils des ministres. Qu'est-ce que c'est? Les ministres, les différents ministères de chaque pays. Instruction publique, santé, etc. Chaque mois, chaque semaine, deux ou trois fois par année, ça n'est pas important. Tous les ministres de différents départements, par exemple agriculture, se rencontrent à Bruxelles ou à Strasbourg et ici décident à propos des 10, 20, 30, 40, beaucoup de propositions des lois de la Commission à propos d'agriculture. À propos de santé. Mais il y a deux particulières très importantes. Je suis en train de vous dire les choses qui sont très difficiles à lire dans les journaux. Est-il impossible de les lire? Deux particulières. Les particulières que je suis en train d'expliquer occupent trois lignes dans les textes des 300 pages de la Constitution européenne. Je laisse évaluer cette absurdité. Trois lignes, mais sont les trois lignes les plus importantes. Ce n'est pas un hasard que nous avons seulement trois lignes pour la chose la plus importante. C'est très difficile, en lisant un livre grand, comprendre que ces trois lignes sont les plus importantes. Je vais vous expliquer parce qu'elles sont les plus importantes. Je peux aussi vous les lire. Avant de continuer, je demande à M. Berthaud, quand est-il opportun que je vais terminer? Parce qu'il est très, très important, mais aussi très grand. Quand vous voulez que je vais terminer exactement? Parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes. Les plus intéressantes sont à la fin. Je peux continuer? Je vais vous lire. Mais je vais lire, je vais traduire à ma amie... À Anne, un bon français.
Article 1-3. Le Conseil des ministres. Le Conseil exerce conjointement au Parlement européen la fonction législative et la fonction de balance. Il exerce la fonction de définition des politiques et de coordination aux conditions établies par la Constitution. Le Conseil est composé d'un représentant de chaque État membre au niveau ministériel. Habilité.
Attention, sont les trois lignes les plus importantes. Ce sont les suivantes lignes.
Habilité à engager le gouvernement de l'État membre qui le représente et à exercer le droit de vote.
Merci beaucoup.
Je ne sais pas si vous avez compris parce qu'ils sont très importants. Je vais vous l'expliquer. Quand on a 25 ministres de la Santé, d'accord? Et il faut décider à propos de l'euthanasie, d'accord? Et certain qu'entre 5 ou 10 ans, en toute l'Union européenne, nous avons un génocide à travers l'euthanasie de la population âgée. Et certain. Et de les handicapés. Et nous l'avons déjà ainsi. Il y a un génocide, un acte, un génocide naziste. Donc, quand les 25 ministres de la Santé se trouvent à Bruxelles, la Commission européenne propose une loi à propos de l'euthanasie. D'accord? Si les 25 ministres approuvent la loi de la commission, proposée par la Commission, les pays européens ont l'obligation de donner une complète application de la loi. Et les parlements nationaux, par exemple français, allemand ou italien, n'ont aucune possibilité de dire non. Donc,
un ministre, va à Bruxelles, et à Bruxelles, avec 25 autres ministres, décide des très grandes questions, des très grands problèmes, par exemple l'euthanasie, immédiatement, pour les traités de Maastricht et d'Amsterdam de 1981 et de 1991 et de 1997. L'État même est obligé de donner pleine actuation à la décision du Conseil des ministres de Bruxelles. Et le Parlement national est obligé à recevoir cette décision. Alors, il y a la destruction complète de la démocratie. Parce que 25 personnes, ministres, ont un pouvoir immense d'engager, d'obliger l'État qu'ils représentent. C'est simplement absurde. Du XVIIe siècle, la population de Paris, les soldats suisses, très forts, avrebbero combattuto, fait une guerre, immédiatement. Le peuple européen fait complet silence. Aucune personne n'est dit que nous sommes tout à fait devant une institution totalitaire. Je vous vais donner un autre exemple. Je pense entre un ou deux années, l'Union européenne décide que les homosexuels, les couples d'homosexuels, peuvent adopter un enfant. C'est une décision antichristique, pas seulement totalitaire. C'est une décision complètement contre Christ et sa loi. Mais c'est les ministres suisses. Si les Suisses entreraient dans l'Union européenne, que Dieu préserve vous, parce que certaines fois, je dis à ma femme, allons en Suisse à travailler parce qu'elle n'est pas dans l'Union européenne. Donc, en Suisse, c'est un ancora di salvataggio en italien. Si la Suisse a entré dans l'Union européenne et les ministres suisses, socialistes par exemple, ou communistes, décident à Bruxelles qu'on peut avoir les mariages homosexuels et l'adoption des enfants, en Suisse, la Suisse est obligée à recevoir cette décision. Un seul homme a un pouvoir illimité sur un peuple, sur un parlement. C'est incroyable. Donc, j'ai fait le dernier exemple, parce qu'il faut comprendre des autres choses très importantes. Les ministres, les conseils des ministres approuvent une proposition de loi de la Commission. Il faut rappeler ces noms continuellement. Je vous donne une indication quantitative. Les institutions de l'Union européenne ont plus ou moins 35 000 employés. De 35 000, 25 000 travaillent pour la Commission européenne. La Commission européenne a dans le monde 223 sièges diplomatiques. Donc, la Commission propose une loi à propos des contrôles par la police de les téléphoner, de les e-mails et de la poste. Les ministres de la justice suisse approuvent avec les autres ministres. Donc, le peuple suisse ne peut plus rien faire pour dire non. Ne peut plus dire non. Cette loi ne va pas bien. Le Parlement suisse ne peut plus dire nous n'acceptons pas. Parce que la décision du Conseil des ministres, 25 personnes, rien, est plus fort de le Parlement et de la loi nationale, est plus fort de la Constitution suisse, est plus fort de tout. C'est le Léviathan, c'est le Moloch qui veut écraser toute liberté, toute justice, toute humanité. Donc, arrivera les jours dans lesquels on pourra seulement combattre. Mais combattre, je pense, non seulement avec la vie politique, combattre vraiment, parce que je vous rappelle que les papa Pio XI a écrit une encyclique très importante quand les cristeros ont été persécutés en Mexico, expliquant quand les chrétiens ont le devoir de combattre aussi de combattre avec les armes contre un pouvoir qui détruit la loi de Dieu, qui détruit la loi naturelle. Mais ceci, c'est une opinion personnelle. Donc, il faut, si vous avez compris le drame de la situation européenne, comprendre une autre petite ligne autant importante. Cette petite ligne dit, les conseils des ministres peuvent seulement approuver toute la loi que la commission propose. Ne peut pas modifier librement la décision. Peut seulement recevoir ou non recevoir. Mais l'histoire nous dit que le Conseil des ministres presque toujours accepte la proposition de commission. Parce que c'est la commission qui travaille chaque jour avec 25 000 employés et managers, dirigeants. C'est la commission qui prépare les tests des 1000 pages. C'est la commission qui connaît les mécanismes. Les ministres suisses ou italiens qui viennent à Bruxelles et un ministre italien, son problème, c'est l'Italie plus que l'Europe, est passif quand la commission technocratique et totalitaire propose les lois. Personne, aucune autorité contrôle cette évolution législative. Et l'évolution législative de la Commission européenne et du Parlement européen est simplement incroyable. Que personne a compté des pages par année que l'Union européenne veut jeter dans notre État. Et en 1997, on a eu 24 lois par jour. 24 lois par jour. Chaque loi de 10, 50, 100 pages d'instruction. 24 lois par jour. Mais dans l'année 97, la curvature est croissante de jour en jour, plus et plus et plus et plus. Et le numéro de pages par année est de plusieurs millions de pages de normatives juridiques. Quand nous savons que les États plus sains, plus bons, ont peu loi, sont les États totalitaires qui ont un règlement écrit pour tout. Et le moment de vous faire sourire, de vous faire sourire après avoir vous fait piangere. Donc, l'Union européenne a une loi pour tout. Rien ne peut espérer d'échapper à les pouvoirs totalitaires de l'Union européenne. Par exemple, le règlement numéro 600, dont les dimensions obligatoires pour les sièges du tracteur agricole. Obligatoire. Les Anglais, are you crazy? Et ont refusé la loi européenne en disant, non sto scherzando, je suis en train de dire le vrai. Nous, Anglais, avons le sedere, plus grand que le siège, plus grand que le siège de l'Union européenne. Donc, nous n'acceptons pas cette loi. Quel problème propose l'Union européenne? Mais après, à donner le standard européen pour la chasse d'eau. La chasse d'eau doit être de certaines mesures en toute l'Europe, du Balkan à les Alpes, à la Suisse, non, la Suisse non, pour... mais je ne sais pas, un futur, à Londres. Parce qu'il y a un très grand problème, la dimension de la chasse. Quand on lit cette chose, on ne sait pas si piangere ou si ride. Mais je pense qu'en futur, je peux commencer la profession de comique avec simplement l'exposition des lois européennes. Je gagne beaucoup d'argent sur les mots, parce que c'est tout à fait divertant. N'est pas fini. Dans les camps agricoles, les bananes doivent être longues 14 cm. Pas moins, pas plus. C'est très difficile. Tous les bananes, 14 cm. Complètement fou. Comment est possible? C'est une loi de la Commission européenne. Les abricots doivent être de 30 mm de largeur. Pas moins, pas de plus. Et si j'ai beaucoup de soleil et l'abricot est bleu, je ne peux pas la commercialiser en Europe. C'est incroyable. Oblige pour les ânes, asini,
pour les ânes,
pas les ânes qui siègent dans le Parlement européen, les ânes vrais, qui sont plus intelligents, de porter une grande couche, un pallolone, une grande couche pour enfants, mais pour les ânes, quand ils vont caminer dans la ligne de brisement à la mer. Alors, avec le grand couche, parce que c'est un grand problème. Tous les jours, je vois beaucoup des ânes dans la ligne de soulignement. Et j'habite sous la mer. Donc, aussi, un particulier totalement insignifiant est sous l'orque,
sous l'œil
très vigilant de la Commission européenne. Je vais conclure. Il y a, je ne sais pas si vous mangez la viande, je pense que oui. Il y a 600 directives européennes sur la consommation de la viande. 600 différents, mais toutes valides. Donc, un pauvre cuoco doit étudier 600 directives pour pouvoir utiliser la viande. On a écrit 26 000 mots pour décrire la commercialisation des œufs des canards en Europe. Je vous rappelle que la déclaration d'indépendance des États-Unis est de 1300 mots. Seulement pour la commercialisation des œufs des canards, 27 000 mots. La Divine Comédie. Plus ou moins. Les concombres doivent être avec une longueur de 10 cm. Et la courbature du concombre doit être au maximum de 1 cm. Donc il faut mesurer les concombres et l'agriculteur doit ordonner à ces concombres une croissance européenne. Parce que si la courbature est plus d'un centimètre, ne peut pas commercialiser ces concombres. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de donner autre exemple. Vous avez compris parfaitement
comment fonctionne l'Union européenne. Quand tu as 25 000 employés, la secrétaire la plus petite comme grado, qui gagne 5 000 euros par mois, la plus petite, parce qu'après il y a beaucoup d'argent, alors il faut que tu travailles toujours et que tu donnes une loi pour tout, aussi pour l'âne, les ânes. Donc, il y a des choses un peu plus dangereuses. Par exemple, j'ai trouvé un article qui donne les numéros de la loi européenne que les États européens ont déjà reçu à propos de l'obligation d'insérer dans tous les animaux domestiques un petit microchip avec toutes les informations sur l'animal. Tout ça est très intéressant parce que pour les plus importants étudiants des stratégies mondialistes et maçonniques, entre les le 50% de la population des États-Unis et d'Europe aura un microchip dans son physique de contrôle de toutes les informations référées à la personne. Mais la préparation culturelle passe par l'habitude à donner les microchips à les animaux domestiques. Vous savez sûrement mieux que moi que les chapitres, il y a un chapitre de l'Apocalypse de Saint Jean qui dit que seulement qui aura les signes de la bête sur la main pourra acheter ou commercer. Seulement qui aura les signes. Donc, l'oblige de les microchips, je pense que 20-30 ans sera une obligation pour les hommes. Parce que, et je vous donne la catégorie plus importante pour comprendre cette soirée, la nature vraie, totalitaire et violente et ennemie de l'humain et de la vie spirituelle, les secrets de la pensée maçonnique, qui est pensée gnostique, mais donc qui est pensée kabbalistique, talmudique, magicien. L'essence de la pensée maçonnique qui travaille dans l'Union européenne est que l'homme est seulement une bête, est seulement un animal, est seulement matériel humain, n'est pas sujet spirituel. Il n'y a pas, pour les technocrates européens, différence vraie entre les hommes et les animaux. Et vous voulez la preuve de ce que je suis en train de dire? Voilà. Les animaux, leur droit, notre devoir, obligation par une loi de la Commission européenne. Écoutez bien moi, je demande vous de la patience. Obligation de recevoir, attention, dans la Constitution nationale des États européens, un article qui donne droit humain à les animaux. Vous avez écouté bien. Nous n'avons pas les temps, mais je pourrais vous les lire. On doit à une dignité, et par exemple, les canils ne peuvent plus tuer les animaux en excès randage et obligés de les maintenir jusqu'à la mort, parce qu'ils ont une dignité. L'Europe qui propugne l'avortement d'État en tous les pays et qui donne des admonitions très dures à les pays comme l'Irlande et la Pologne qui ont
encore des législations restrictives. Mais les animaux, tout est là et n'est pas tué. Donc, il y a une pensée secrète. Je suis sûr, mais c'est seulement ma opinion, que le vrai secret de l'Union européenne, un petit nombre de désilluminés gnostiques maçonniques pensent que l'homme, c'est seulement un sujet zootechnique, un sujet animal, sans vie spirituelle, sans vie intellectuelle et morale digne. Donc il faut détruire, il faut combattre totalement tout ce qui rappelle à l'homme la loi de nature et la loi chrétienne.
Je vais conclure. Je vous rappelle que la constitution soviétique de Staline de 1936 est pour les étudiants des droits l'exemple plus élevé des défenses de la liberté de l'homme avant le départ de la terreur stalinienne. Donc, tous les mots et toute l'idée de tutelle de la liberté des droits que vous trouvez dans les textes de la constitution n'ont aucune valeur. Parce que aussi la constitution de Staline avait beaucoup de mots très beaux. Le vrai but n'est pas l'homme, c'est la terre. Dans une vision New Age, écologiste, une vision anti-life et anti-baby, une vision qui rêve le développement zéro et la déindustrialisation de l'Europe. Il y a dans le préambule de la constitution européenne, de la phrase suivante. Les États européens ont connaissance de leurs responsabilités pour les futures générations de citoyens et pour la Terre. L'Union européenne est responsable de la Terre, avec la T majuscule, les planètes Terre, qui est dans la pensée maçonnique, panthéistiquement, comme un sujet vivant, le vrai sujet vivant, duquel l'homme est un parasite, est quelque chose qu'il faut tuer. Et l'Union européenne est actuellement la plus grande agence mondiale de financement à l'avortement d'État. Il y aura certainement une persécution des moments plus durs de la chrétienté, de laquelle je vous donne seulement un exemple. Et après, nous sommes prêts de conclure pour aller à déjeuner, à manger. L'année passée, l'Union européenne a donné 30 admonitions à le Vatican, mais seulement 15 à la Chine. Et seulement 5 admonitions à Cuba, avec ses situations concentrationnaires et policiesques. L'État du Vatican a reçu 30 admonitions très sévères, dès lesquelles je vais vous donner seulement 2 exemples. Admonition à ouvrir les sacerdoces à les fins. Admonition officielle. Parce qu'en cas contraire, on peut accuser l'Église catholique de faire des discriminations. Et les valeurs plus importantes de l'Union européenne, pratiquement rappelées chaque page de la Constitution, c'est la non-discrimination. L'Union européenne est pratiquement formé d'une nouvelle typologie de racistes. Les racistes de l'antiracisme, les spécialistes de l'antiracisme. Il y a un seulement ennemi de l'Union européenne, l'homme qui fait discrimination. Mais dans l'histoire, il y a eu civilité, culture, seulement où on a identité. Et je ne peux pas avoir mon identité si je n'ai fait des différences parmi mon identité et ma tradition, et la tradition et l'identité de l'autre. C'est antichristique, c'est satanique, cette prétese, cette idée d'éviter chaque discrimination. Donc, l'Église catholique est déjà point de mire pour sa théologie de contraception. Ammoni a abandonné sa théologie officielle de contraception, a été averti aussi à ne pas... L'Église doit renoncer à avoir voix dans la vie politique.
doit renoncer à sa doctrine sociale. Le monte Athos, où il y a une communauté orthodoxe, a été amené à ouvrir les portes à les femmes, averties. Donc, vous comprenez qu'il n'y a aucune possibilité de coexistence parmi un vrai catholicisme solide, fort, fidèle à la tradition et l'Union européenne. Parce que l'Union européenne est totalement à l'opposé, projet antichristique, anticatholique, maçonnique, et il y aura une guerre très dure. Je vous donne seulement un exemple final. En Hollande, à Maastricht, une équipe a établi que les bougies dans l'église produisent un excès de fumée qui est très dangereux pour la respiration. Donc, il faut éliminer les bougies et aussi éliminer l'incense, parce qu'il est dangereux pour la santé. Petite indication. A été approuvé, et nous sommes arrivés à la conclusion, le mandat d'arrêt européen, qui c'est la possibilité pour chaque juge européen, par exemple bulgarien, polonais, hollandais, d'ordonner à la police d'un État étranger, par exemple un juge français, peut ordonner d'arrêter un intellectuel ou une personne italienne et de les transporter en France pour être soumis à des procès extradition. Vous savez que quand on peut fermer une personne qui n'a pas réalisé les faits criminels dans les lieux où habitent les juges, il y a l'État totalitaire. Si un juge de Paris qui est ami d'un lobby homosexuel, par exemple, ou qui est homosexuel, peut fermer un citoyen italien, nous avons l'État totalitaire. Wyszynski, la police nationale socialiste, etc. Je vous rappelle qu'il est opératif en Europe le mandat d'arrest européen. Et la chose la plus dangereuse. Comment travaille la commission? La commission est composée de 25 commissaires. Les noms nous rappellent les commissaires bolcheviques. C'est très important, cette assonance linguistique. Entre les 2010, les langages européens aura des changements très importants. On aura des mots interdits. Par exemple, nous ne pourrons plus employer les mots « an » et les mots « moi » par loi. Ou en italien, les mots « quintale » qui signifie « 5 kg ». La Commission européenne a pris la décision que sera interdit l'utilisation des mots « an »,« année », »,« moi ». Parce que Orwell, dans le roman 1984, explique qu'il n'y a pas totalitarisme si on n'a pas une néolingua. Il faut avoir un nouveau langage pour avoir un pouvoir spirituel total. Donc, la Commission travaille aussi à propos de cette matière. Mais les 25 commissaires ont 25 000 employés et pas seulement l'unique institution qui peut donner une proposition de loi, mais aussi l'unique institution qui peut, en totale autonomie, faire pas de loi, mais des règlements et des directives qui ont les mêmes valeurs d'une loi, parce qu'elles sont obligeantes pour tous les États européens, mais ont la caractéristique d'être complètement soustraites à les contrôles du Parlement européen, du Conseil des ministres et de chaque institution européenne ou nationale. Et l'Union européenne est en train de produire non pas beaucoup de lois seulement, mais surtout beaucoup de règlements et de directives. Dans les livres très importants, les origines, les racines du totalitarisme, nous dit que l'essence sur les plans juridiques et constitutionnels d'un État totalitaire est exactement que les citoyens sont gouvernés par des institutions anonymes, impersonnelles, inconnues, très loin, qui gouvernent cette masse de bêtes, d'animaux, avec des règlements seulement bureaucratiques, des directives inexplicables, kafkiennes, qui on ne sait pas pour quel but, mais que je suis obligé à respecter. Les modèles, c'est les règlements de carcération, parce que toute l'Europe est avviata d'aller vers un incroyable état totalitaire. Que Dieu nous garde, et que tous ces cadres très négatifs que j'ai faits, réalistiques, ne détruisent pas la foi, l'espérance, qui est une vertu surnaturelle, et donc qui est espérance en Dieu, pas espérance dans les hommes, n'est pas limite notre énergie et notre volonté de fermer ces projets inhumains, totalitaires et ennemis de Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci beaucoup pour votre attention.
È stato un errore francese. Sì, sincero.